Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute des investisseurs pour ce 29 avril 2026. Bonjour Martin.
Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, avant de rentrer dans notre sujet principal, on va faire qu'est-ce qu'on fait à chaque semaine. Est-ce qu'il y a des éléments du contexte du marché récent que nous, on surveille particulièrement en ce moment?
Aujourd'hui particulièrement, donc on est mercredi le 29 avril au moment d'enregistrer, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui. D'une part, on va avoir après la fermeture des marchés, donc mercredi soir, là, Microsoft, Amazon, Google et Meta, donc 4 des 7 magnifiques qui vont rapporter les résultats financiers. Demain, Apple, 5 des 7 en 24 heures là, qui vont rapporter les résultats financiers. Alors, on ne peut pas vous dire dans quelle direction le marché va bouger, mais généralement, ce sont des résultats financiers là, qui font bouger le marché. Les attentes sont quand même relativement élevées. On a un S&P 500 qui a touché un nouveau sommet hier. On a rebaissé un petit peu, là, ceci dit, par la suite, là, mais on est quand même en hausse donc de 1% cette semaine, 9% depuis le début du mois, 4,2% depuis le début de l'année. Ça, c'est sur le S&P 500. Au Canada, on a un TSX qui tire un peu plus de la patte cette semaine en baisse de 0,7. Du côté des ressources, c'est un peu plus tranquille, là, les mines, métaux et tout ça. Par contre, demeure en hausse de 2,4 pour le mois, 5,9 pour l'année. Donc, en général, là, le portrait demeure positif. Le Nasdaq, tenez-vous bien, là, 14,2% ce mois-ci, seulement 1,6 cette semaine. Donc, ça va très bien du côté des titres technologiques. Donc, on va évidemment surveiller Microsoft, Amazon, Google, Meta ce soir. Plusieurs titres canadiens. Bon, je vous dis, le Canada, ça va comme en deux temps, si on veut. Il y a plusieurs titres, par contre, qui font des nouveaux sommets. C'était le cas là, cette semaine. Power Corporation, CN Rail, Aecon Group, TFI International. Donc, c'est un titre qu'on détient un petit peu pas tant, là, mais ce que je trouve intéressant de surveiller, CN, TFI font des nouveaux sommets. C'est deux types de transport. C'est souvent un secteur économique là, qui est important à surveiller, qui est précurseur de l'activité économique. À surveiller. Et aujourd'hui, ben, c'est en principe la dernière rencontre de la Réserve fédérale pour Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, là, qui termine son mandat. C'est largement attendu. Là, donc, les taux d'intérêt vont demeurer stables aux États-Unis. Et on pose la question, est-ce que c'est son dernier meeting? Parce qu'il n'a toujours pas confirmé qu'il va se retirer tant que le nouveau n'est pas officiellement confirmé. Côté ressources, quand même, là, le pétrole, la guerre en Iran se poursuit, se prolonge. Des fois, ça va mieux, des fois, ça va moins bien. Mais là, ça va moins bien ces temps-ci. Le prix du pétrole est en hausse à 103 $ le baril versus 92 la semaine passée. Coup d'œil du côté de l'or aussi, là, le secteur refuge en cas d'incertitude. Ça fait pas tout à fait le travail. Là, on se souvient qu'on était à un sommet de 5400 il y a quelques semaines. On est à 4580 présentement. C'est un peu la raison là, pourquoi le TSX performe moins bien. Là, le secteur orifère traîne un peu le TSX à la baisse là, depuis quelques semaines.
Bien, merci beaucoup, Martin, pour ces nouvelles. Aujourd'hui, on voulait prendre le temps de répondre à une question que plusieurs personnes ou clients nous posent, parfois sans exactement utiliser ces mots. Comment s'assurer que mon portefeuille est bien construit et que je ne paie pas plus d'impôts que nécessaire? Je pense que c'est un sujet, on a touché à tous les sujets sur notre balado, mais on essaye de les revisiter de temps en temps.
Avec un œil rafraîchi.
Exactement. Donc, la construction de portefeuille, ce n'est pas seulement choisir des bons placements, c'est orchestrer le tout pour que chaque dollar travaille au bon endroit pour le bon objectif et plus efficacement possible après impôt. Donc, ma première question mon premier point qu'on voit, c'est que l'erreur, c'est de bâtir un portefeuille en fonction, puis on se fait toujours poser la question des clients avec qu'est-ce qui se passe sur le marché, est-ce qu'on devrait faire des changements. Donc, on bâtit le portefeuille en fonction de ce que fait le marché plutôt qu'en fonction de la réalité.
Oui, donc ça, c'est l'erreur. Là. Donc, oui. Le marché ne doit pas dicter comment on bâtit votre portefeuille. Ce sont, dans le fond, vos objectifs. Donc, les gens nous appellent, disent, hey, là, j'ai un 40 000 à vous envoyer. Là. Qu'est-ce que je devrais acheter? Ben, en réalité, donc nous, on va toujours répondre. Ben, à quoi va servir cet argent-là? T'sais, pourquoi vous nous envoyez 40 000? Est-ce qu'on achète une voiture dans quelques mois? Est-ce que c'est pour le projet de retraite à très long terme? À quoi va servir l'argent? Dans combien de temps tu en as besoin? J'achète la maison dans 6 mois. Donc, ce n'est pas le marché là, qui va dicter. L'important, c'est vraiment toujours de revenir aux objectifs de placement du client. Est-ce qu'on est en période d'accumulation, de décaissement, un mélange des deux? Donc, on sait qu'en période d'accumulation, la séquence de rendement annuel n'est pas importante, là. Donc, si on veut un rendement moyen de 8, puis on fait du plus 15, puis du moins 10, puis tout, c'est pas grave. En autant qu'en bout de ligne, on a fait 8. Mais en décaissement, par contre, c'est très important, là. Si on décaisse l'année où on subit un moins 10, moins 12, ben, il me reste moins d'argent pour remonter. Donc, il faut faire attention. Si on envoie de l'argent durant cette période-là, période un peu plus incertaine, on veut toujours s'assurer qu'on a de l'argent pour décaisser. Puis, c'est quoi notre niveau de tolérance au risque réel, pas théorique? Donc, tu sais, les gens disent bien souvent, là, puis on ne veut pas trop généraliser, mais ça nous arrive là, de dire non, moi, j'ai une tolérance au risque très, très élevée. Puis, dès que le marché branle de 4-5 %, ils nous appellent pour dire hey, là, on fait quoi? Ben, c'est quoi votre tolérance au risque? Parce que la tolérance au risque, c'est d'être capable d'ignorer les fluctuations de marché puis l'inconfort de voir son portefeuille baisser.
Puis, il y a des questions réelles, des bonnes questions qu'on peut poser. On a un profil d'investisseur qu'on remplit quand on fait nos ouvertures de compte, puis on est capable de vous dire, ben, dans le pire cas, votre portefeuille va faire X, dans le meilleur cas, va faire Y, si vous avez cette allocation d'actifs-là.
Ouais.
Ça, des fois, cette réalité-là vient aider les gens. Aussi, c'est sûr qu'on a eu plusieurs années où la bourse monte. Fait que là, les gens sont moins inquiets.
C'est comme si la tolérance au risque augmente avec la taille avec la
C'est ça.
performance des marchés. Fait que, c'est ce qu'on voit, deux portefeuilles similaires avec la même répartition d'actifs, mais mal construits, tu sais, qui correspondent pas à vos objectifs, ça peut être un problème, là, tu sais. Donc, la fondation, c'est vraiment d'aligner les besoins, l'horizon temporel, puis le comportement de l'investisseur avec comment on va bâtir votre portefeuille.
Exactement, bien dit. Quand on parle de diversification, beaucoup de gens pensent uniquement à j'ai des actions, j'ai des obligations, donc je suis diversifié. Est-ce que c'est vrai?
Ben, ça part de là. Donc, on va dire, tu sais, oui, là, en principe, au moins, on a ça, mais c'est pas que ça, là. Tu sais, la diversification va au-delà de juste dire, bon, j'ai quelques actions puis quelques obligations, donc je suis diversifié. Si on a, tu sais, 12 actions puis sont toutes dans le même secteur économique, on n'est pas bien diversifié. Du côté revenu fixe, ben, on devrait avoir une diversification aussi, même à l'intérieur du revenu fixe. Donc, d'avoir une seule obligation municipale 5 ans, on n'est pas nécessairement bien diversifié du côté revenu fixe. Alors, on peut avoir un petit peu d'actions privilégiées, pas trop parce que ça peut être un peu plus volatile, mais quand même, ça fait partie, là, d'une allocation. Un petit peu d'obligations corporatives, municipales, provinciales, peut-être des CPG, même pourquoi pas, tu sais, ça, selon les objectifs de chacun, ça peut avoir sa place. Donc, c'est vraiment important là, de maintenir une diversification entre les différentes catégories d'actifs, les régions géographiques. On sait que le marché américain a été le meilleur marché depuis très longtemps. Puis là, c'est tentant de dire, ben là, ça donne rien d'être à l'extérieur, on va juste tout mettre aux États-Unis. Ouais, mais à très long terme, là, les marchés ont tendance à se rattraper l'un de l'autre.
Bien, puis on peut aller sur notre site VMD Conseil et il y a un endroit où si on clique dessus, on peut regarder. Puis si vous avez des questions, appelez-nous. On peut vraiment, ça décortique tout notre portefeuille et vous pouvez vraiment voir à quel point vous êtes diversifié parmi les géographies, les secteurs, les catégories d'actifs, etc.
Donc, il y a aussi des styles de gestion. Hein. Quand on utilise des gestionnaires, donc il y a des gestionnaires plus à la Warren Buffett, là, buy and hold, on détient à très long terme des titres. Puis il y en a d'autres qui sont très, très actifs, qui font beaucoup, beaucoup de transactions à l'intérieur. Puis c'est correct d'avoir des différents gestionnaires qui travaillent différemment. Puis qui sont pas bons en même temps, c'est correct ça de dire ok ben lui il y a une année off mais l'autre à côté il est excellent, ben tant mieux, c'est ça la diversification et d'avoir donc différentes sources de rendement entre autres ben les différents types de revenus, intérêts, dividendes, gains capital. Donc ça c'est les trois principales sources de rendement dans un portefeuille. Puis évidemment la fiscalité, c'est là que ça rentre en jeu. Donc il faut mettre le bon titre à la bonne place.
Oui. Donc, un point souvent sous-estimé, c'est l'emplacement fiscal des placements. Vraiment, on le voit tout le temps. Des fois, on voit des portefeuilles que les clients ont ailleurs et on voit que ça, c'est un défi. Donc, dans quel type de compte détient-on quel type d'actifs?
Puis on a déjà fait cet exercice-là de créer, là, donc tu sais, le cas typique, là, le client est Monsieur X, là, il a 300 000 de REER, il a 150 000 de CELI, puis 100 000 dans un compte enregistré. Profil équilibré, donc il y a un fonds équilibré dans le REER, il y a un fonds équilibré dans le CELI, puis le fonds équilibré dans le compte non enregistré. Donc, c'est trois miroirs, là, les trois comptes sont pareils. Puis en réalité, ben, on vient perdre l'efficacité fiscale du portefeuille. Ce qu'on devrait chercher, c'est ben, où puis-je améliorer la performance nette d'impôt de mon portefeuille? Donc, on va regarder deux portefeuilles de dire, ben, moi, tout le revenu fixe, dans le fond, toutes les obligations, CPG, tout ça, je mets tout ça dans le REER au complet pour combler mon 40 % de revenu fixe, par exemple. Toutes les actions canadiennes qui payent des dividendes éligibles au crédit d'impôt pour dividendes dans le compte non enregistré. Ça nous permet aussi de contrôler la fiscalité puis le gain en capital de quand on va déclencher des gains sur les différents titres, peut-être même de déclencher des pertes ces années-là. Puis dans le CELI, c'est très important de surtout éviter les pertes en capital parce que c'est pas déductible d'impôt. Donc c'est vraiment, c'est une perte en capital dans le CELI, là, c'est une perte qui fait mal, là. On déduit pas ça nulle part. Donc si on veut favoriser le plus possible la croissance à l'intérieur d'un CELI, mais peut-être avec plus des fonds indiciels, des fonds communs de placement, des titres qui sont moins susceptibles à long terme de générer une perte en capital.
Puis bien entendu, tout ça est très en lien avec votre profil d'investisseur. Donc,
Exact.
si je suis un investisseur qui veut être 60 % en obligations et 40 % en actions, et bon, j'ai pas assez de REER pour mettre toutes mes obligations, mais il va falloir les mettre à quelque part. Donc, il y a aussi l'effet que, dépendant du contexte des marchés, quand les clients nous envoient de l'argent, ils se sentent plus ou moins confortables à investir dans du croissant. Fait que c'est possible des fois qu'on a des obligations dans notre CELI parce que le contexte le dicte ou notre situation financière ou nos besoins le dictent. Mais le plus que possible, puis je pense que c'est ça qu'on
Ouais.
est en train de dire, la situation idéale, c'est de vraiment d'avoir le plus de croissance possible dans le CELI, nos obligations dans le REER et les actions canadiennes à dividendes
Absolument, tout ça
dans
sous
le
la
compte.
prémisse qu'on respecte les objectifs. Donc, tu sais, si dans 6 mois, je décaisse mon CELI au complet pour acheter la maison, ben, c'est pas approprié d'être 100 % en action, là, OK? Donc, on revient, là, on a bâti la base, on a déterminé les objectifs. Là, ensuite, c'est à long terme, parfait. On vise l'optimisation, pas la perfection. Il y a aussi, là, on est dans la saison des impôts, puis là, bon, si j'ai 1 million de $ dans un compte non enregistré, je vais payer de l'impôt.
Oui.
Ça va arriver, là, c'est inévitable, là. Donc, si quelqu'un paye pas d'impôts, il y a deux raisons qu'on paye zéro impôt. Soit qu'on ne fait pas d'argent ou qu'on fraude l'impôt. Puis c'est pas bon dans les deux cas. Donc c'est correct de payer de l'impôt. On essaie d'en payer le moins possible puis d'optimiser la
Puis
fiscalité.
ça, on le voit beaucoup avec les gens qui ont eu une propriété.
Ouais.
Et là, ils ont décidé de vendre leur propriété, puis s'en aller peut-être en résidence ou en condo. Et là, ils ont de l'argent dans le compte non enregistré. C'est jamais arrivé avant. Et la facture d'impôt, ça fait mal. On vous comprend. On va vous guider à travers. Martin et puis moi, de notre côté, on essaye d'être le plus fiscalement avantageux dans notre construction de portefeuille, tout en respectant votre profil de risque. Mais ça prend un certain ajustement qu'on n'a jamais eu un compte non enregistré de cette taille-là.
Exact. Puis il faut prendre ça en considération, ce qui est un peu plate dans le fond quand on va comparer, tu sais, mon rendement avec Martin puis Sarah. Là, je dis un exemple seulement, mais ah, j'ai fait 7 %, puis ah, avec mon autre conseiller, j'ai fait 7,5 %. Mais tu sais, si la fiscalité fait que je perds 1 % d'impôt parce que je suis pas bien structuré, ça se peut que mon rendement brut soit égal ou même légèrement inférieur, mais qu'au net dans mes poches, il m'en reste plus parce que j'ai mieux structuré le portefeuille. Et ça, ben
Exactement.
évidemment, c'est pas reflété sur le rapport de performance, là. On travaille juste dans les rendements après frais, mais avant impôt.
Exactement. Donc, je pense que c'est là où on peut ajouter notre valeur et c'est là aussi que toi, tu rajoutes de la valeur en tant que planificateur. temps parce que tu nous as fait comme une obsession là-dessus. Quand on est en phase de décaissement, la question n'est pas seulement combien mon portefeuille rapporte, mais plutôt d'où provient l'argent que je retire.
Donc là, on parle de l'ordre de décaissement REER, CELI, compte non enregistré. Ça a un impact important, puis ça dépend de votre taux d'imposition, de la longévité du portefeuille, les prestations gouvernementales. Puis des fois, c'est même contre-intuitif. Donc, on va souvent dans les plans financiers remarquer que au début de la retraite, c'est possible qu'on a un taux d'impôt moins élevé jusqu'à temps qu'on soit obligé de faire des décaissements de faire, par exemple, où on va se rendre compte que de toute façon, on va se rendre à 95 ans au décès, puis il va rester 1 million. De dollars. Et puis là, ben, l'impôt s'applique. Fait que si j'ai tout décaissé mon non enregistré, tout décaissé mes REER, pas mes REER, mais mes CELI, puis là, il me reste juste du REER au décès, l'impôt rentre, puis finalement, je calcule ma valeur nette au décès. Des fois, c'est plus avantageux de dire, tu sais quoi, peut-être que je décaisse un petit peu de REER pour favoriser mon moins retiré de CELI. Et oui, je paye un peu plus d'impôts cette année pour en payer peut-être beaucoup moins plus tard. Et là, ça dépend, OK? Ça dépend, c'est pas universel.
Parce qu'il y a eu un article dans la presse et je sais que j'ai eu plusieurs appels de clients qui disaient « Hey, ça s'applique-tu? » Mais des fois, quand on a un gros fonds de pension, puis on reçoit des rentes, puis on a un gros compte non enregistré, c'est pas pour nous. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on peut tester pour vous dans un plan.
Exact. Et ça va fonctionner principalement si mon taux d'imposition présent est beaucoup moins élevé que le taux marginal au décès et que dans mon plan, on prévoit qu'on va mourir avec un montant élevé en REER, donc il serait taxé au taux marginal le plus élevé. Alors, c'est vraiment, là, ça dépend tout le temps, planification financière, et ça, c'est très important, là, partez pas avec ça que faut que je décaisse mes REER tout de suite, c'est pas vrai pour tout le monde du tout.
Puis, je pense que les articles sont intéressants quand on voit ça dans la presse ou dans les différents journaux, mais il faut toujours se dire, ça dépend.
Exact.
Ce qui était fiscalement optimal, il y a 5 ou 10 ans, ce ne l'est pas forcément aujourd'hui.
Ben, les lois changent, puis on a même eu un petit avant-goût, par exemple, là, quand les lois sur le gain en capital ont été modifiées, là, tu sais, finalement, ça n'a pas été modifié, là, mais tu sais, ça se peut que ce qui est vrai aujourd'hui soit pas vrai éventuellement. La vie évolue, les règles changent, la situation personnelle, je prends ma retraite plus tôt que prévu, finalement, je vends mon entreprise, je reçois un héritage. Changement de statut familial, donc une rupture d'union, ça peut avoir un impact important. Donc, un plan, on le rend le plus efficace possible selon votre situation présente et anticipée. Mais si on reçoit une balle courbe, soit de la fiscalité, soit de la législation, ou dans votre situation personnelle, ben on devra peut-être s'ajuster puis corriger le tir, évidemment. Donc, c'est évolutif au fil du temps. Là. Il n'y a pas une solution qui est bonne pendant 50 ans. Il faut toujours revenir mesurer nos hypothèses, valider nos hypothèses dans le temps et mesurer que le plan est toujours pertinent pour vous.
Puis, je vais vous dire que qu'est-ce que nous, on rencontre souvent, c'est quand les gens vendent leur propriété puis décident d'aller en résidence, souvent cet argent-là, ils veulent peut-être avoir moins de risques, ils veulent le placer peut-être plus dans des obligations. Fait que c'est pas efficace fiscalement parlant, mais ça leur donne un paix d'esprit. Et ça, il n'y a pas de prix pour le paix d'esprit.
Exact. Puis, et là, on vient parler un peu d'un biais cognitif. Là. Il faut en être conscient. Là, l'argent, c'est fongible. Hein? Donc, un dollar, c'est un dollar. Fait que, tu sais, c'est pas parce que c'est de l'argent qui vient de la vente de la maison que ce dollar-là, il est différent du montant qu'il y a dans votre REER. Donc, t'sais, des fois, c'est juste de remettre le tout en perspective. Ma situation aujourd'hui, c'est que j'ai ça dans mes mains. Peu importe d'où vient l'argent, l'argent, il est là devant moi. Comment est-ce que je devrais la structurer de façon la plus optimale possible?
Exactement. Donc, en résumé, la construction de portefeuille, ce n'est pas seulement une question de rendement ou de marché. C'est un équilibre entre les objectifs, le risque, la diversification et surtout l'efficacité fiscale. Merci beaucoup, Martin, et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions sur la structure de votre portefeuille, la diversification ou la fiscalité de vos placements, notre équipe, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi, est toujours là pour vous accompagner. À bientôt pour un prochain épisode de À l'écoute des investisseurs.